Bonsoir, bienvenue à la conférence. Alors, donc le thème, c'est la conscience des organes. On aurait pu aussi dire les organes de la conscience ou l'esprit des organes. Et en tout cas, on va essayer de voir comment le côté organique, alors pour nous, c'est du matériel, hein, c'est des cellules, c'est quelque chose de physique. Et le côté du psychisme, la conscience, donc quelque chose qui n'est pas matériel, en tout cas pas au jour actuel des connaissances, mais je pense qu'un jour tout ça va se relier même dans la science occidentale, et de voir comment dans la pensée chinoise, ils sont ensemble, ils sont reliés, et comment en fait ce sont des aspects du même mouvement, du même ensemble, et quelle est leur relation aussi entre le côté psychique et le côté des organes. Et avant de rentrer plus dans le détail de chacun des organes, je vais faire quelques petites généralités sur cette physiologie énergétique pour mieux comprendre comment est basée cette relation entre le corps et l'esprit. Donc, dans la pensée chinoise, dans la culture chinoise, la vie, hein, ce qui fait qu'on est vivant, est basé sur trois notions qui sont complémentaires et on pourrait même dire qui sont la même chose sous trois aspects différents. Et on les appelle les trois trésors. Les trois trésors, donc il y a le jing. Le jing, on le traduit souvent par l'essence. L'essence, c'est ce qui manifeste la vie dans la matière corporelle. C'est-à-dire ce qui fait que nos cellules, que tout ce qui fait notre corps, a la vie, a la vitalité. Et le jing, bien sûr, il est dans notre corps, mais on peut le retrouver dans tous les éléments de la nature vivante. Ça peut être un fruit, ça peut être un animal, bien sûr, tous les végétaux. Donc tout ce qui porte la vie a un élément vivant. Donc que les Chinois ont appelé le jing sans chercher à l'expliquer dans sa structure de ce que ça pouvait être, mais c'est la vie à travers, donc pour nous, êtres humains, à travers nos cellules. Donc c'est le côté le plus riche de notre tissu cellulaire, le plus potentiellement chargé de vitalité, et donc il manifeste cette notion de vie dans le corps humain. Le deuxième élément de ces trois trésors, c'est le qi. Le qi, ben, on traduit par souffle, par énergie. Et donc, c'est l'aspect de la vie dans son mouvement, dans sa relation, dans son échange, dans sa transformation. Donc, le qi, c'est vraiment quelque chose qui porte la vie, mais dans un mouvement permanent, dans un échange, dans une relation, et qui nous permet de communiquer toutes les parties du corps, les cellules, nos systèmes, mais aussi, bien sûr, avec tout le monde qui nous environne. Et le troisième aspect de ces trois trésors, c'est le shen, qu'on traduit souvent par esprit, bien que n'y a pas de traduction exacte pour ces trois termes, parce que pour nous occidentaux, le mot esprit il a une certaine connotation. Et là, on pourrait dire que c'est toute la vie dans son aspect subtil, invisible, pas matériel. On pourrait presque dire les ondes, donc des choses qu'on traduirait chez nous par psychisme, par pensée, par conscience. Donc toutes sortes de manifestations de la vie, d'éléments très subtils et qui sont dans la pensée chinoise complètement reliés avec le corps. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ce qu'on porte de vie, eh bien il a plusieurs aspects. Il a un aspect donc corporel, matériel, physique, visible, un aspect de mouvement, d'échange, de relations qui peuvent être matériels, par exemple à travers le sang, ou plus subtils à travers toutes les informations, à travers ce que je vous dis. Donc ce sont des informations subtiles, on pourrait dire du qi qui passe, qui est en mouvement. Et le troisième aspect, le shen, la conscience, le psychisme, qui est notre vitalité dans son aspect invisible, non matériel, mais qui bien sûr existe tout autant. Dans notre culture occidentale, au moins depuis le 19e siècle, avec la vision plutôt mécaniste de la vie, de l'être humain, on a séparé ces notions-là. Donc il y a le corps avec tout ce qu'il constitue, hein, qui a été très bien analysé dans la médecine, qui a été détaillé complètement, mais dans lequel on a fait abstraction de tous les éléments justement invisibles, subtils, qui n'en sont pas moins une réalité pour chacun de nous, puisque notre pensée, bon, on l'imagine dans la tête, mais on ne sait pas d'où elle vient exactement. Hein, on ne peut pas en avoir une préhension, une sensation physique. Et donc, cette pensée, elle est rattachée dans la pensée chinoise au corps. Et en fait, on va voir à travers le mouvement des organes, à travers leur énergétique, comment ils se manifestent dans notre organisation corporelle, physique, et aussi dans notre organisation psychique. Et il y a une autre notion aussi qui est importante dans la physiologie de l'énergie chinoise, c'est ce qu'on appelle les cinq éléments, ou les cinq phases, ou les cinq mouvements. Donc c'est un ensemble dynamique qui est en mouvement, et à travers ce chiffre 5, qui résume tout ce qu'on pourrait appeler l'entretien de la vie, le fonctionnement de la vie en nous. Ce chiffre 5, donc, il est décliné à travers tout ce qui existe à la fois dans la nature, en nous, dans la vie, à travers des correspondances. C'est-à-dire qu'à travers cinq grandes catégories, les Chinois ont pu tisser tout un réseau de correspondances, comme par exemple une saison, une couleur, une direction dans les directions cardinales, une époque de l'année, et dans le corps, bien sûr, un tissu physique, un organe, et on va voir tout à l'heure aussi sur le plan du psychisme, donc une potentialité psychique. Et donc ces correspondances, c'est ce qu'on va essayer d'approcher dans cette conférence, c'est de voir comment s'articulent des associations d'éléments qui pour nous sont complètement séparés et qui en fait ont bien l'air, dans la médecine chinoise aussi, dans la culture chinoise, de fonctionner ensemble. Et c'est vrai, pour donner un seul tout petit exemple, qu'au moment du printemps, on a plutôt envie de faire des projets, d'aller à l'extérieur. Et ce n'est pas seulement une notion de température, de climat, c'est qu'on porte en nous ce désir de vivre plus de choses à l'extérieur, d'organiser un week-end, une sortie, alors que l'hiver, bien sûr, on a plus tendance, on devrait avoir plus tendance à se rester plus à l'intérieur, à se reposer plus. Et donc, vous voyez à travers un petit exemple comme ça, comment des associations peuvent se tisser, et on va essayer justement de retrouver pas mal de ces associations pour comprendre comment physique et psychique fonctionnent ensemble et qu'une même information se manifeste autant sur le plan psychique que sur le plan organique. Et puis bien sûr, on aura l'occasion de parler, au-delà du psychisme, des émotions. Hein, des émotions dont on ne peut pas dire si elles sont physiques ou psychique, puisqu'une émotion, elle touche autant les deux. Hein, une émotion, en fait, c'est vraiment une membrane qui est entre notre désir intérieur et des circonstances extérieures. Hein, tout ce qu'on porte en nous qui désire exister va se confronter à des circonstances, et selon cette association, ça va engendrer de la joie, de la tristesse, de la peur, etc. Et donc les émotions, elles touchent autant le corps que l'esprit. Alors bien sûr, pendant cette conférence, si vous avez des questions ou quelque chose qui n'est pas très clair, n'hésitez pas à vous manifester. Alors maintenant, on va commencer directement avec un premier organe, le cœur, et on va voir successivement, comme pour les autres organes, l'organe, sa fonction énergétique dans la médecine chinoise, puis son aspect du chen, donc du psychisme de l'organe, et enfin l'émotion attachée à l'organe. Alors le cœur, donc là je ne parle pas de la médecine occidentale, on parle vraiment de la culture chinoise, Alors, il gouverne et dirige le sang. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà en Occident. Hein, c'est le mécanisme d'insuffler à partir du cœur toutes les circulations en nous. Donc, le cœur, alors on sait très bien, nous, que c'est la pompe cardiaque qui propulse le sang. Et dans la pensée chinoise, c'est un peu plus large que ça même. C'est que toutes les circulations, elles sont impulsées par cette énergie du cœur qui envoie jusqu'aux extrémités du corps, dans toutes les cellules, qui envoie cette information, pas seulement cette quantité de sang, cette information de la présence du cœur comme étant la place d'un empereur en nous. Hein, dans la pensée chinoise, le cœur, c'est l'empereur. Comme était l'empereur dans la société chinoise, l'empereur, on l'appelait le fils du ciel. Et on l'appelait le fils du ciel parce qu'il recevait directement une information donc, du ciel. Et dans la pensée chinoise, le ciel est plutôt assimilé à tout le potentiel, tout ce qui pourrait être. Hein, ce n'est pas un ciel religieux avec Dieu, c'est plutôt tout le potentiel de ce qui peut exister et qui va donner donc un sens à l'empereur pour gouverner l'empire. Et pour nous, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit dans la médecine chinoise que le cœur, c'est le logis de l'esprit, le shen. Parce que le cœur doit rester vide pour recevoir ces informations du ciel. Et au-delà de ce lien avec le ciel, le cœur, c'est celui qui porte notre propre mandat céleste. C'est-à-dire qui porte un potentiel qu'on va essayer de réaliser dans notre vie. Il porte un sens de notre vie qu'on a à découvrir, qu'on a à accomplir dans notre vie. Et pour être au plus près de ce sens, c'est pour ça qu'on dit que le cœur doit être vide, parce que s'il est encombré de toutes sortes de pensées, de troubles, d'émotions parasites, de tas de problèmes à gérer, eh bien, il ne peut plus se relier avec ce message, avec ce potentiel qu'il porte. Et donc, il ne nous donne plus le sens de notre vie. Et donc, comme on dit, on rame sans savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Quelque chose qu'aujourd'hui, on comprend bien, hein, justement, puisque le lien est très, très distendu, on peut dire, avec cette notion potentielle. Et donc, le cœur, il porte un message inné. Un message inné, c'est quelque chose qui appartient à notre origine et dont on ne sait pas d'où il vient, mais on sait qu'il y a eu un désir qui est venu s'incarner pour produire une vie et que cette vie, elle va chercher à accomplir son destin à travers ce sens que donne le cœur, qu'on ne connaît pas bien sûr au départ, mais qu'on découvre petit à petit dans les expériences de notre vie, ou au moins qu'on cherche à découvrir le sens de notre existence et pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à vivre. Eh bien, c'est le cœur de la pensée chinoise qui contient ces questions, mais bien sûr qui contient les réponses en potentiel à accomplir dans l'existence. Donc, au-delà du mouvement du sang, au-delà de la circulation, eh bien, c'est tout le rayonnement de l'esprit, tout le rayonnement de la conscience, toute la place de la présence de l'être qui se manifeste à travers cette énergie du cœur. Donc c'est une présence physique à travers toute la circulation du sang. Hein, le sang il vient informer toutes les cellules du corps, tous les tissus, tous les organes, tout ce qui existe en nous est nourri par le sang et informé de ces messages du cœur. Donc un côté physique et un côté donc du shen qui est cette notion de présence, de conscience. Et justement, le shen, eh bien, il manifeste à travers l'éclat du visage, à travers l'éclat des yeux, il manifeste justement cette présence. Et on voit bien des gens qu'on connaît, par exemple, d'un simple regard, ah ben non, ça va pas, il y a quelque chose qui cloche. On voit que le shen est troublé, qu'il a disparu. quand on a une maladie sérieuse, eh bien, le teint devient terne. Il n'y a plus la présence, il n'y a plus cette conscience incarnée de l'être qui lui donne cette présence dans la vie. Et donc, la place du cœur, elle est autant dans les circulations que dans la présence qu'on rayonne à l'extérieur, qui, elle, est quelque chose de subtil, donc du chêne, non matériel. Mais ce sont donc les deux aspects de cette même énergie rayonnante du cœur. Et bien sûr, dans les associations de ces cinq mouvements, eh bien le cœur il va être avec l'élément du feu, avec la couleur rouge, avec l'été. Et d'ailleurs, pour prendre une image classique qu'on connaît en Occident, quand on regarde des peintures de Van Gogh, qui lui a beaucoup été dans ces lumières du sud, du midi, et quand on voit par exemple le champ de blé avec cette chaleur rayonnante, de cette vibration même de la chaleur de l'été, on sent une présence, on sent vraiment cette présence. Et ça peut être une image, par exemple, qui se rapproche de cette présence du cœur, pas seulement dans l'être humain, qu'on connaît bien, mais aussi dans la nature, dans tout ce qui existe, qui a une présence, qui a une conscience. Et donc, le chêne relié avec le cœur, il présente tant une conscience spirituelle, donc reliée avec le ciel, avec le potentiel, un principe organisateur lié à l'inné, c'est-à-dire qu'on porte en nous une trame innée qui nous aide à nous reconstruire, à rester nous-mêmes, qui a quelque chose d'autre que simplement notre fonctionnement quotidien. Il y a une trame derrière tout ça qui est une constitution vraiment autant physique que psychique de l'être et qui nous donne une stabilité dans la vie. Même s'il y a des aléas dans la vie, on a une remarquable stabilité. C'est toujours nous, hein, cette conscience de l'être, depuis qu'on est enfant, on a toujours l'impression que c'est nous. C'est quelque chose qui ne change pas du jour au lendemain. Le caractère, les émotions, les circonstances, ça change tout le temps. Mais notre être intérieur, c'est toujours lui, depuis qu'on a conscience de cet être. Jusqu'à la fin de nos jours, on a l'impression que c'est toujours nous, qu'on n'a pas changé. On sait qu'on a changé, mais il y a quelque chose qui est stable en nous. Et donc cette stabilité, on peut la rapprocher d'un aspect de mémoire, hein, de mémoire de notre vie, de tout ce qu'on a vécu, mais même de mémoire de génération, de mémoire ancestrale, de mémoire de la Terre aussi, hein, on porte toutes ces mémoires en nous. Et selon ce qu'on peut en vivre, ce qu'on peut en manifester, eh bien, on va se charger de plus de chaînes, de conscience, de présence et de sens de notre vie. Une autre image qu'on donne du chêne dans la pensée chinoise, donc de cet esprit du cœur, c'est l'image d'un miroir. C'est l'image d'un miroir qui reflète à travers nous le ciel. Hein, ce miroir, il reflète l'éclat du ciel à travers nous, à travers notre visage, notre regard. Et c'est pour ça que beaucoup de pratiques du Qigong, par exemple, elles vont dire on vide le cœur des émotions, on enlève tout ce poids accumulé par les journées, pour que ce miroir soit bien lisse, qu'il soit bien pur et qu'il réfléchisse vraiment cette notion de ciel à travers nous. Et donc cette présence du chêne, c'est un élément absolument essentiel, bien sûr, de notre constitution. C'est pour ça aussi qu'on donne au cœur la place de l'empereur, pas seulement pour la circulation intérieure. Et on peut retenir cette notion de rayonnement. Hein, je dirais que c'est le mot peut-être qui convient le mieux avec cette expression. Il rayonne à l'intérieur à travers la circulation, il rayonne autour à travers quelque chose de plus subtil, qui est donc la présence de l'être. Et maintenant, on va parler de l'émotion reliée avec le cœur. Donc, bien sûr, l'émotion du cœur, c'est la joie. Hein, la joie, c'est quelque chose aussi qui rayonne à travers nous. Donc, comme on a dit, l'émotion, elle est autant corporelle que psychique. Donc la joie, ça peut être une joie intérieure, une joie contenue, mais ça peut être une joie qui s'exprime physiquement, à travers le rire, à travers la joie qu'on partage. Et ces deux aspects de la joie sont vraiment liés à ce côté de rayonnement. Donc la joie, c'est l'expression naturelle du cœur. Quand tout circule bien, quand les canaux sont ouverts, qu'on est ouvert avec l'extérieur, eh ben, on a une joie naturelle. Un peu comme les enfants. Hein, sauf s'ils ont eu des soucis, mais sinon les enfants, ils ont une joie naturelle. Tous les matins, ils sont joyeux parce que leur cœur est ouvert, tout est fluide, ça circule bien. Et donc, ils expriment un mouvement de joie tout à fait naturel et qui doit être cependant, je dirais, équilibré. Hein, c'est-à-dire que trop de joie, on dit trop de joie nuit au cœur. Parce qu'elle va déstabiliser la notion plus profonde du chêne, elle va agiter nos circulations, et donc ça va un peu déstabiliser notre énergie. Donc on évite l'excès de joie, et d'ailleurs on voit chez les enfants, qui eux ne maîtrisent pas très bien leur mouvement d'émotion, donc la joie, la joie, la joie, ça monte, ça monte, et puis comme ils ne savent pas revenir à quelque chose de plus calme, souvent, il y a une petite crise, on se cogne, on se fait mal, ou d'une manière ou d'une autre, ils vont provoquer une rupture pour pouvoir retrouver un état plus calme. Donc, c'est souvent un peu en dents de scie. Et donc, l'excès de joie nuit au cœur, mais l'absence de joie est aussi, bien sûr, mauvaise, néfaste. Et on dit que l'absence de joie est même un signe précurseur d'affection, de maladie. Parce que si ça ne rayonne pas, ça veut dire que des circulations sont fermées. Et si elles sont fermées dans le psychisme, elles le seront aussi dans le corps, dans le physique. Hein, quelqu'un qui est toujours triste, maussade, qui ne connaît pas la joie, eh bien, petit à petit, ces circulations vont se fermer. Et donc, probablement que des affections vont petit à petit pouvoir se manifester. Donc voilà pour cette notion du cœur, hein, de l'organe central, du rayonnement, donc sur le plan physique, sur le plan de la conscience, du rayonnement de l'être. Maintenant, on va voir le foie. Alors le foie, c'est ben, en fait chacun de ces cinq organes est très important bien sûr, et donc on ne se cantonne pas juste à l'organe matériel, mais à tout l'ensemble énergétique qui va avec. Dans la médecine chinoise, on dit que le foie il gouverne la dispersion et le drainage. La dispersion et le drainage, c'est-à-dire qu'il répartit les choses en nous. Il répartit le sang. Donc, c'est-à-dire qu'il amène le sang là où il y en a besoin, au moment où il y en a besoin. Par exemple, si je suis en repos, le sang va se regrouper dans le foie, il y a un réservoir de sang. Et si je fais un exercice physique, le sang va aller dans les muscles pour les besoins d'exercice physique. Et donc, il amène le sang là où il faut, quand il faut, mais aussi l'énergie. Donc, il amène l'énergie nécessaire. Par exemple, au moment de la digestion, où on a besoin de plus d'énergie dans les organes digestifs, le foie va amener du sang et de l'énergie dans cette zone-là pour digérer. Et comme, du coup, il y aura plus d'énergie ici, il y en aura moins ailleurs, forcément. Et c'est pour ça que des fois, on a un petit coup de pompe après le repas. C'est parce que notre énergie est monopolisée pour la digestion. Peut-être qu'on n'en a pas assez, ou il fait froid, on est un peu fatigué, et du coup, on a le coup de barre après le repas, parce que voilà, le foie a amené l'énergie là où il y en avait le plus besoin. Donc le drainage et la dispersion, c'est de répartir tout dans le corps. On a vu pour le sang, pour l'énergie, le chi, mais aussi même pour les aspects plus subtils, les émotions, le psychisme, que tout circule, tout soit fluide, que quelque chose ne bloque pas. Donc à la fois il assure ce rôle, mais à la fois s'il y a un blocage quelque part, cette énergie du foie va être très perturbé. Hein, le foie n'aime pas du tout les blocages, les stagnations. Il aime bien que tout soit en mouvement, que ce soit bien réparti. Et l'énergie du foie, c'est une énergie ascendante, qui est dirigée vers le haut et qui va permettre, à travers cet aspect très matériel, très profond du foie, du rôle de drainage, de répartition, d'élever les choses, d'éviter qu'elles s'alourdissent et justement qu'elles stagnent. Le foie en permanence, il essaye d'alléger, d'élever, de remonter à la fois les matières corporelles, mais aussi l'énergie, de créer vraiment une dynamique à ce niveau-là. Et justement, le foie est relié dans ses correspondances avec le printemps. Et par exemple, comme climat, avec le vent. Hein, donc, c'est le vent du printemps, c'est quelque chose de léger qui anime tout ce qui vit, qui élève vers le haut les choses. Et dans la nature, ben, on voit bien au moment du printemps les fleurs, les petits oiseaux, les papillons, tout qui se réveille, qui s'anime. Et en nous, on sent la même énergie d'avoir envie de créer, de faire des choses, de faire des projets. Et donc, l'énergie du foie, elle est très puissante. Hein, l'image du printemps, parce que l'énergie du printemps, c'est énorme. Hein, tous les arbres qui vont faire des feuilles, toute la nature qui va se mettre en mouvement. Donc c'est une énergie très puissante, mais qui doit se manifester dans la douceur, hein, dans quelque chose de léger, de doux. Ça ne doit pas être la bourrasque qui déracine tout sur son passage. Et justement, c'est un peu des fois le souci au niveau de cette énergie du foie, c'est que justement aussi dans la vie actuelle où il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à gérer, de complexité, eh bien, le foie est bien gêné parce qu'on est toujours dans une accumulation de contraintes, de problèmes qui gênent ce mouvement léger, spontané, ce mouvement très créatif. Hein, le foie, c'est vraiment lié aussi à la créativité, à l'intuition, hein, aux choses légères. Le foie, donc, il régularise les circulations, il régularise les émotions. Il se manifeste à travers les yeux, hein, les yeux qui sont l'organe qui est le plus tourné vers l'extérieur, hein, qui nous fait vivre à l'intérieur du monde. Au niveau du corps, par exemple, comme tissu, ce sont plutôt les tendons et les muscles, toute la partie dynamique qui met en mouvement justement le corps. Et au niveau du chêne, donc au niveau du psychisme, le psychisme du foie, on l'appelle le Run, qui s'écrit H-U-N. Run, c'est, on pourrait dire, l'âme spirituelle. Donc c'est la notion psychique très légère, tournée bien sûr aussi vers le haut. C'est quelque chose de fluide, on dit, qui va et vient. Donc, il n'y a pas de frontière, un peu à l'image des rêves. Quand on rêve, tout est fluide, léger, on ne sait pas si c'est à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, ça se communique, c'est quelque chose en mouvement qui nous relie, justement, quand on parle de spiritualité, qui nous relie avec la notion légère de l'esprit, avec aussi cette notion spirituelle. Donc le Run, il va et vient très librement, il est lié à l'imaginaire, hein, toutes les représentations, à cette notion fluide et aérienne. L'intuition, la créativité, la spiritualité. Et on peut dire que cette énergie du foie, c'est vraiment une énergie qui nous aide à nous extérioriser, hein, qui accompagne notre mouvement vers l'extérieur. Et ça, c'est très important, ce mouvement vers l'extérieur, parce qu'il va permettre à ce qu'on porte en nous de pouvoir exister dans notre vie. Et donc, c'est, je dirais, peut-être un des éléments essentiels de notre vie, c'est qu'on puisse vivre ce qu'on portait en nous, qu'on puisse réaliser ce qu'on a en nous en l'extériorisant, en faisant quelque chose que ça existe pour nous, pour les autres, que ça puisse être notre création. Et, Et donc cette énergie du foie, elle a une importance très grande, alors pas seulement au moment du printemps, hein, dans toute notre vie, pour accompagner ce mouvement de réalisation à l'extérieur de nous. Et puis l'émotion du foie, donc l'émotion du foie, on dit souvent c'est la colère. Alors pourquoi c'est la colère? Puisque la colère, c'est justement le mouvement d'extériorisation. La colère, on explose, on extériorise ce qu'on porte, et il y a plusieurs sortes de colère. On pourrait dire que la colère, dans ce sens d'énergie, c'est plutôt de pouvoir déplacer un obstacle qui nous empêche de nous extérioriser. Hein, des fois, il y a des choses, on a besoin, on a un désir de vivre quelque chose, il y a des choses qui nous empêchent, et on peut avoir une colère juste, alors qui n'est pas une colère destructrice, hein, une colère violente, mais qui est une colère d'un mouvement pour dégager un obstacle, pour ouvrir la voie et arriver enfin à vivre ce qu'on avait à vivre. Donc ça, c'est un mouvement naturel, une émotion qui n'est pas forcément négative, mais à l'inverse, et d'ailleurs le plus souvent, la colère n'est pas bien placée, parce que on porte ce désir, mais on ne va pas agir pour déplacer l'obstacle, on va mettre le couvercle. Donc on va essayer d'assurer quand même notre vie quotidienne, les contraintes, le travail, à la maison, etc. Et puis quand la pression sera trop forte, ça va exploser. Et souvent, ça va exploser pas en rapport avec les circonstances qui nous gênent, mais ça va exploser à mauvais escient. Hein, on dit souvent, on connaît souvent, hein, la personne qui rentre du bureau, toute la journée, des tas de problèmes, etc. Puis pof, péter les plombs à la maison pour une bricole de rien du tout. Hein, parce que ça s'est accumulé et donc ça se libère à mauvais escient. Et ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est surtout essayer d'identifier que derrière cette colère, il y a un désir de quelque chose. Il y a un désir de vivre quelque chose. Et plutôt voir qu'est-ce qui a empêché ce désir d'exister ou comment on pourrait le faire exister malgré les circonstances. Il y a toujours un moyen d'arriver à se débrouiller pour vivre ce qu'on porte en nous, ne serait-ce que dans l'imaginaire, justement. Hein, si on aime bien être dans la nature, les arbres, etc., et qu'on ne peut pas y être, parce qu'on n'a pas l'argent, on est bloqué dans le travail, on ne peut pas y aller, eh ben, on peut toujours vivre imaginairement cette nature, puisqu'on l'a connue, et donc on peut se retrouver au milieu des arbres, le torrent, enfin tout le ciel, tout ce qui peut exister, et donc retrouver cette notion extérieure par l'esprit. Hein, bon, c'est juste un truc, il y a des tas de moyens, en tout cas, d'identifier un désir et d'essayer de le vivre à notre manière. Hein, la vie, je dirais, elle est surtout faite là pour qu'on tente de vivre ce qu'on porte en nous, et cette énergie du foie, elle est là pour nous aider à le vivre, et justement, comme... dans la vie moderne, ce n'est pas facile, hein, on a tous beaucoup de contraintes, et donc il faut avoir une stratégie. Et c'est pour ça qu'on dit que le foie, c'est le général. Hein, si le cœur est l'empereur, le foie est le général, puisqu'il nous permet d'élaborer une stratégie. Et justement, quand on parlait des yeux, le foie, c'est la vision juste des choses. Et d'ailleurs, on dit que la colère rend aveugle. Vous voyez toutes ces notions en fait, qu'on connaît déjà en nous, que la colère nous déstabilise et qu'elle va nous arracher justement de cette présence du chêne, de cette incarnation qu'on est, elle va nous déstabiliser. Et donc, bien sûr, la colère va arracher cette énergie du foie qui va se disperser. Donc, il y a une grosse déperdition d'énergie. Et bien sûr, là aussi, ça peut être annonciateur de pathologie, si ça revient tout le temps, eh bien, par exemple, l'énergie du foie dans les cinq mouvements, elle domine l'énergie de la terre. L'énergie de la terre, qu'on va voir tout à l'heure, c'est estomara. Et donc, quand il y a ce bouillonnement d'énergie au niveau du foie qui n'arrive pas à aller accomplir à l'extérieur ce désir qu'on porte, eh bien, elle peut se retourner contre la terre. Et donc, on va avoir des acidités, une gastrite, etc., des douleurs d'estomac, puisque c'est cette énergie qui s'est mal orientée. Ou alors, cette énergie du foie, elle va pas se manifester en colère, elle va se manifester par un dégagement d'énergie vers le haut. Donc, on va avoir des tensions, des maux de tête, etc., etc. Et puis, bien souvent, cette énergie du foie, comme elle a du mal, d'une manière fluide, à accompagner ce mouvement vers l'extérieur, eh bien, ça va être quelque chose en dents de scie, où on va avoir un moment d'énervement, puis après, au contraire, on va tomber un peu déprimé dans la morosité, et hop, ça va repartir. Donc, c'est quelque chose de très changeant, hein, souvent, avec le foie, qui est en dents de scie. Et donc, l'idée, c'est plutôt là de diminuer les crêtes, de rassembler pour retrouver un mouvement beaucoup plus sain, beaucoup plus uni et qui trouve son sens en pouvant accompagner notre désir de vivre. Cette énergie du foie, on pourrait dire que dans son esprit, c'est je suis dans le monde, je suis dans le monde extérieur et je vais vivre ce que je porte en moi. Donc c'est vraiment une notion d'être dans la vie, dans le mouvement de la vie et d'y aller, hein, d'aller à l'extérieur, d'aller dans le mouvement, d'aller dans l'expression de la vie. Alors ensuite, on va passer, j'avais la rate, mais on va passer d'abord au poumon. Alors, le foie, c'était le printemps, et le poumon, c'est l'automne. Hein, donc là, c'est plutôt le mouvement vers le bas, le mouvement de descente, le mouvement vers l'intérieur, hein, comme à l'automne. Et c'est vrai qu'à l'automne, ben, on va être un peu plus intériorisé, on va être plus dans des pensées, on va avoir une énergie, ben, bien sûr, qui n'est pas orientée pareil qu'au printemps. Alors, dans la physiologie chinoise, le poumon, c'est le maître de l'énergie. Hein, il est le maître de l'énergie parce que déjà, il est en échange permanent avec l'énergie extérieure à travers la respiration, mais aussi à travers le mouvement de la respiration, donc le mouvement du diaphragme, eh bien, il va impulser tout le mouvement de l'énergie, du chi, en nous. C'est pour ça que dans le qigong, on dit qu'on va chercher une respiration plus lente, plus profonde, plus régulière, pour que ce mouvement de l'énergie soit régulier, profond, et que tout s'accomplisse bien. Il y a une autre fonction du poumon qui fait que c'est le maître de l'énergie, c'est que c'est lui qui reçoit toute l'énergie alimentaire. Hein, quand on mange, on digère, et la rate, tout à l'heure on va le voir, la rate va amener l'énergie pure, donc l'énergie dont on a besoin au poumon. Le poumon va le mettre dans la circulation, à la fois dans la circulation d'énergie des méridiens, mais aussi dans la circulation du sang. C'est-à-dire que le sang qui va au poumon va aller après au cœur, le cœur va le mettre dans toute la circulation, mais c'est le poumon qui met cette énergie dans nos circulations. Et donc, on peut dire aussi par ça que c'est le maître de l'énergie. Et cette énergie, donc, ils vont la répartir partout dans le corps, et on dit jusqu'à la peau. Hein, la peau, ben, c'est notre surface, donc elle est nourrie en énergie, en sang, par ce mouvement du poumon qui va donc nourrir jusqu'à la peau. Donc l'ouverture des poumons vers l'extérieur, c'est le nez, hein, l'odorat, bien sûr, c'est tout à fait logique. Et on dit que le nez est la porte des poumons. Bien sûr, cette porte, eh bien, des fois, elle laisse rentrer des microbes. Parce que les poumons, avec le gros intestin, donc l'organe qui est lié aux poumons, s'occupent beaucoup de l'immunité, hein, de fabriquer l'immunité en nous. Et d'ailleurs, ça, c'est un trait qu'on retrouve dans la médecine occidentale, hein, que à la fois le poumon et surtout le gros intestin fabriquent les globules blancs et contribuent à notre immunité. Donc au niveau de l'esprit du poumon, on l'appelle le PO, donc PO, et il est un peu l'antagonisme de Run tout à l'heure avec le foie. Le PO, c'est, on peut dire, l'instinct terrestre. Tout à l'heure, c'était l'âme céleste, l'âme spirituelle, maintenant c'est l'instinct terrestre. Et le PO, on dit, il mesure ce qui rentre et ce qui sort. Hein, tout à l'heure, le Run, il va et vient, il n'y a pas de séparation. Là, il y a une séparation. Mettons, on va manger tant de quantité. Donc ça, c'est vraiment l'instinct de manger. On a besoin de manger. Hein, ce sont des instincts qui sont très utiles, qui doivent être mesurés, mais qui sont nécessaires à la vie. Et on va éliminer tant de quantité, par exemple. Hein, dans le côté du pot, c'est vraiment l'instinct de vie qui nous force à manger, donc à faire rentrer les choses et à en éliminer d'autres. Donc tous ces instincts, ils sont bien sûr nécessaires absolument à l'existence, mais ils sont équilibrés par la composante spirituelle de Run, et bien sûr par le rayonnement du cœur. Donc ces instincts terrestres, nécessaires à l'existence, doivent être équilibrés par les notions plus spirituelles qui montent plutôt vers le haut. Mais le pot en lui-même n'est pas négatif, hein, on vient de voir, hein, c'est nécessaire pour l'existence, et donc c'est aussi une composante, hein, de notre vie, c'est qu'on doit vivre ses instincts sans aller à la destruction. Hein, parce que justement, si le pot n'est pas bien équilibré par des notions plus élevées, eh bien l'être est livré à ses instincts, et il va aller à sa destruction, il va retourner dans la terre. Parce que l'idée de Pau, c'est de retourner dans l'élémentaire, et ça peut être donc destructeur. Ça peut être la destruction si on est livré complètement à ses désirs, et s'il n'y a pas cette composante d'élévation spirituelle. Donc Runpo, on dit qu'il préexiste à l'axe de la conscience de l'être, que c'est une constituante générale qu'on a dès le moment de la naissance. Au moment de la naissance, par exemple, notre âme n'est pas encore complètement incarnée, c'est-à-dire que le bébé qui vient de naître, il regarde, mais il ne fait pas de différence entre ce qu'il est, ce qui l'entoure. Tout est lié dans le même ensemble. Il n'y a aucune séparation pour le bébé, il ne peut pas distinguer. Et après quelques mois, le bébé, ben, quand il va nous regarder, on sait qu'il nous regarde. Hein. L'esprit s'est vraiment incarné. Et au début, par contre, Run Po sont très actifs chez le bébé. Hein, c'est-à-dire que Run, ben, c'est côté rêve, donc il rêve, on peut dire, presque toute la journée. Et à d'autres moments, il va pleurer parce qu'il a besoin de faire rentrer une quantité très précise de nourriture. Et une fois qu'elle est rentrée, ben, il va y avoir de l'autre côté une élimination aussi très, très précise. Donc il est vraiment lié à ce Run, à la rêverie, à ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est complètement fluide, et à une notion très matérielle que tant de choses doivent rentrer, tant de choses doivent sortir pour son maintien, son existence, pour sa vie. L'émotion des poumons, c'est la tristesse. Alors, pourquoi la tristesse? Puisque le poumon, il est lié à l'élément métal. Le métal, c'est ce qui tranche. Et donc, ce qui tranche sépare. Et la séparation engendre la tristesse. Hein, dès qu'on est séparé de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose qu'on est, eh bien, ça engendre une tristesse en nous. Et pourquoi est-ce que ça engendre une tristesse? Puisque avec l'énergie du poumon, on intériorise les choses et on porte le monde en nous. C'est-à-dire tous les gens, par exemple, qu'on aime, eh bien, ils sont quelque part en nous. On les a intériorisés. Et si on est séparé d'eux matériellement, physiquement, soit par une séparation, soit par un décès, eh bien, cette représentation intérieure qu'on a d'eux n'a plus de correspondance avec la réalité. Et donc, on souffre de porter ça en nous et que ça n'existe plus. Et donc, à ce moment-là, il y a un travail de détachement à faire pour se détacher de cette représentation intérieure et retrouver une autre forme, je dirais, de communication avec l'être qui est parti. Et ça, c'est très important parce que ce mouvement de tristesse, il est naturel. Hein, dès qu'il y a une séparation, il y a toujours une tristesse. Même des fois, une séparation d'un animal, d'une maison, enfin d'un contexte de vie, ça va engendrer une certaine tristesse parce que on dit on en a gros dans la poitrine, on porte quelque chose en nous. Et c'est vraiment cette notion d'intériorisation qui fait que, à l'inverse du bois où tout à l'heure on était dans le monde, là c'est le monde qui est en nous. Et ces deux aspects, ils sont vraiment importants à considérer, puisqu'ils sont antagonistes et les deux sont nécessaires. Mais par contre, chacun de nous a une orientation, je dirais. Il y a des personnes qui sont plus naturellement à l'extérieur, dans le monde, dans l'action, et d'autres qui sont plus dans la contemplation, dans l'intériorité, et qui ont le monde en eux. Et d'ailleurs, dans le taoïsme, on dit à quoi bon aller à l'extérieur dans le monde, puisqu'on a tout en nous, et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller partout à droite, à gauche. Bon, ça c'est une vision taoïste, dans le sens où, dans le taoïsme, on se coupait un peu de notre manifestation terrestre pour retrouver l'unité originelle. Donc c'est une démarche particulière, mais en tout cas, cette notion de porter le monde en soi, elle est importante à identifier, parce que dès que quelque chose ne va pas à l'extérieur, eh ben, il ne va pas à l'intérieur aussi, puisqu'on le porte en nous. Et donc il faut bien sentir que c'est plutôt à l'intérieur qu'il faut agir, pour déjà replacer les choses comme elles doivent être, et pouvoir après agir à l'extérieur. Et si on porte tout le poids du monde en nous, on ne pourra pas faire grand-chose à l'extérieur, puisque déjà, on n'arrivera pas à manifester notre existence. Et dans la notion de porter le monde en soi du poumon, il y a aussi une notion avec la tristesse de compatir. On voit quelqu'un de triste, on voit un problème. Dans le monde, il y en a beaucoup, des problèmes, on peut compatir. Comme on le porte en nous, on peut donner une forme de sympathie, de charité, même d'amour, aux autres, aux diverses circonstances, et qui sont une réponse juste, justement, puisqu'on les porte en nous, et bien de donner ce message qui va autant nous toucher que toucher les personnes extérieures. Et donc, cette notion d'intériorisation, elle a beaucoup d'aspects positifs. On pourrait penser que c'est négatif, que ça alourdit et tout. Ça a beaucoup de notions positives. Mais là, pareil, ce fait de porter le monde en soi ne doit pas nous empêcher d'agir dans notre vie pour vivre ce qu'on porte en nous. Et on voit que les personnes, peut-être, qui incarnent le mieux la charité, comme Mère Teresa, ce sont des personnes qui ont agi dans le monde. Elles le portaient en elles, elles souffraient avec la souffrance des gens, mais elles agissaient autant. Et donc ça, c'est une vraie forme d'équilibre, de ne pas rester replié sur sa douleur, sur toute la douleur du monde, parce que dans ce repliement du poumon, il pourrait y avoir une notion, à l'inverse, d'égoïsme, de se replier sur ses douleurs, de les garder, de les cultiver, même d'une certaine manière, ce qui nous empêche après d'agir, ce qui nous empêche de vivre notre vie. Alors bien sûr, ces émotions, quand elles sont excessives, on a vu pour la colère, la tristesse, c'est pareil. J'ai dit qu'elle est naturelle quand il y a une séparation, mais on doit faire ce deuil, c'est-à-dire se détacher de la représentation intérieure, ne serait-ce que pouvoir mieux communiquer avec l'extérieur. Et d'ailleurs, les Chinois, par exemple, quand il y a un décès d'un proche ou dans la famille, ils vont brûler des papiers. Et pas n'importe quel papier, ce sont des papiers avec, par exemple, des objets que le défunt aimait. En les brûlant, ils les font passer dans l'invisible, puisqu'il est brûlé, il a disparu. Et donc, pour eux, le monde des morts, c'est le monde invisible. Donc, en le brûlant, on le fait communiquer aux morts. Et c'est pour ça que, depuis des siècles et des siècles, on trouve même dans les tombes des objets, la matérielle, qui sont faits pour accompagner le mort, hein, qui retrouvent, qui sont fabriqués pour la tombe. Hein. C'est même souvent pas les vrais objets, c'est par exemple des pots en terre mais pas cuites et tout, qu'on met à côté. Et puis dans les époques modernes, c'était de l'argent, hein, des billets, parce qu'on disait il va avoir besoin d'argent après. Donc, et puis c'était alors là, on y allait carrément des milliards et tout, qui soient très riches. Et puis même les dernières années, on a vu sur ces billets qui brûlent des téléphones portables, des ordinateurs. Je pense qu'ils n'en ont pas besoin là-bas, mais pour vous dire jusqu'où va cette conception hein, de communication avec l'au-delà. Et dans un sens, moi, ce que je donne des fois comme conseil quand on a perdu quelqu'un de cher, c'est d'écrire ce qu'on voudrait lui dire et de brûler le papier pour lui envoyer. Et ne serait-ce que si c'est symbolique, au moins, on a émis quelque chose. On a envoyé une pensée, on a envoyé un message. Et donc, la personne qui est morte, eh bien, elle reste mémoriellement, et donc on peut penser que ces mémoires reçoivent d'une certaine manière ce message. Et en tout cas, c'est une belle manière aussi de restituer à l'autre cette communication et de pouvoir se détacher de cette présence qu'on a en nous. Donc, voilà pour le poumon. Alors maintenant, la rate. Alors la rate, c'est vraiment l'organe central hein, qui marche avec l'estomac. Donc c'est un peu notre centre à nous. C'est l'élément de la terre. Hein, et la terre, ben, c'est aussi un centre pour le monde, pour notre vie, parce qu'elle reçoit tout ce qui vient de l'extérieur, hein, même les déchets, etc. Elle recycle tout pour nourrir la vie, hein, nourrir les plantes, les animaux, les êtres. Donc elle a un rôle nourricier très important. Et c'est pour ça qu'on dit que la rate gouverne la transformation et le transport. Donc la transformation, c'est quelque chose qu'on imagine bien. Un rate-estomac fonctionne ensemble. L'estomac reçoit la nourriture. À travers tout son mouvement digestif, il va disloquer les aliments, il va les séparer et donc transformer les aliments, qui après vont poursuivre le chemin digestif. Et la rate, elle va extraire, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'utile pour l'amener au poumon, pour qu'elle assure son rôle nourricier. Hein, donc rate-estomac, c'est vraiment un rôle nourricier, évidemment essentiel. Et c'est pour ça qu'on dit que la rate gouverne le ciel postérieur. Le ciel antérieur, c'est l'inné. Hein, donc on en a vu tout à l'heure pour le cœur, on va voir après pour les reins. Et le ciel postérieur, c'est tout l'acquis. Hein, c'est tout l'acquis depuis qu'on est né. Ben, on s'est nourri de nourriture, mais on s'est aussi nourri de plein d'autres choses. Par exemple, ce que je suis en train de vous dire est une nourriture pour vous. Et donc vous allez le digérer. Vous allez le digérer avec votre énergie de la race et vous allez extraire vous est utile et ça va nourrir votre vie. Et ce qui vous est pas forcément utile, eh bien vous allez l'éliminer ou le mettre de côté. Hein, donc elle digère, ça sépare et ça nourrit ce qui doit être nourri. Et c'est pour ça d'ailleurs que si à la fin de la conférence on demandait à chacun ce que j'ai dit, eh bien, on aurait autant de versions différentes que de personnes, puisque chacun aura digéré et retenu des choses qui étaient pour lui. Et ce qui compte aussi à travers cette transformation opérée par la rate, c'est qu'une fois qu'elle a fait cette transformation, ça devient nous. Alors, pour les aliments, on sait bien, hein, on mange une carotte, une fois qu'elle est digérée, c'est plus une carotte, c'est une part de nous, de notre corps. Eh bien, pour les pensées, c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai pu dire ce soir, vous allez retenir des éléments, et après, vous pourrez en parler, ce sera une part de vous, de votre esprit, de votre intelligence. Et donc, ce rôle nourricier de la rate, il ne se cantonne pas à la nourriture matérielle, mais à toutes les nourritures, à toutes les informations qu'on peut recevoir. Et là encore, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. il y a même, je dirais, beaucoup trop d'informations. Parce qu'il y a en plus toutes les ondes, hein, tout ce qu'on ne peut pas appréhender par les sens, qui vient nous charger, toutes les nouvelles, hein, on ouvre la télé, hop, encore un flot d'informations, les journaux, tout qui nous arrive, et qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à digérer tout ça. La rate, elle est fatiguée. Et en médecine chinoise, aujourd'hui, il y a des grands médecins qui disent « La médecine chinoise, maintenant, c'est une médecine de la rate. » Parce que c'est le premier organe qui est vraiment touché par la vie actuelle, qui est bien différente de la vie des Chinois il y a 2000 ans ou 2500 ans, et qui est complexe, qui a trop de tout. Et donc, la rate se fatigue à vouloir transformer, digérer tout ça. Et au bout d'un moment, elle s'affaiblit. Du coup, elle ne transforme plus bien. Et ça s'accumule. Ça s'accumule dans le corps. Ça s'accumule dans la tête, dans la pensée. Et donc, on doit aider la rate en contrôlant ses apports. C'est-à-dire en se donnant des bonnes choses, que ce soit bien sûr au niveau de l'alimentation, mais aussi sur le niveau du psychique, de l'esprit. Plutôt que d'allumer la télé en rentrant le soir, de mettre un bon morceau de musique, un livre qu'on aime, un échange amical, des choses nourrissantes pour nous, et pas trop de choses. Parce que, pareil, ça sature. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus faire des gueuletons comme on faisait dans le temps. Quand j'étais petit, des repas de communion, de mariage et tout, ça pouvait durer 2-3 jours et il n'y avait qu'une heure pratiquement entre le déjeuner et le dîner pour faire une petite balade. Aujourd'hui, on mange un plat, une entrée et un plat, on a déjà largement notre compte. Hein, la rate, elle ne nous permet pas... d'excès parce qu'on n'arrive plus à transformer. Tout de suite, on est alourdi. Donc, il y a eu vraiment un changement dans notre physiologie ces dernières dizaines d'années. Hein. C'est pas juste cette année, ça fait déjà quelques dizaines d'années. Et donc, on cible aujourd'hui beaucoup cette approche thérapeutique de la médecine chinoise sur la rate, puisque si elle ne transforme pas bien, eh bien, le corps n'est pas nourri, l'esprit n'est pas nourri. Et bien sûr, ça va engendrer toutes sortes de problèmes. Et d'autant plus que si on n'a pas réussi non plus à extérioriser bien ce qu'on portait en nous, c'est-à-dire à vivre ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie au fond de nous de vivre, si on n'y arrive pas, on a la pression d'un côté, on ne transforme plus bien ce qui vient de l'extérieur, donc il y a une disharmonie entre la rate et le foie, qui occasionne après des douleurs, des tas de problématiques diverses. Et donc la rate a ce rôle nourricier essentiel de pouvoir nourrir notre corps, nourrir notre esprit avec tous les apports extérieurs. Donc j'espère que je vous aurai bien nourri aujourd'hui. Donc elle est à la base de tout l'acquis et donc voilà, le meilleur conseil qu'on donne, c'est de choisir ses apports, de ne pas subir trop de choses et tout, de choisir, de sélectionner des choses qui sont bonnes et qui vont être porteuses de vitalité, que ce soit dans l'esprit ou dans le matériel. Donc elle a aussi un rôle sur le plan énergétique d'humidification des tissus. La rate, elle est liée à l'humidité. Donc elle humidifie les tissus, mais elle n'aime pas qu'il y ait trop d'humidité, parce que ça stagne. On pourrait faire l'image de la terre, une terre humide, elle est fertile, mais si c'est une glaise détrempée d'eau qui colle et tout, elle n'est pas fertile. Donc on aime que la terre soit légère, que la rate ne soit pas alourdie par trop d'humidité dans le corps. Et justement, quand elle est fatiguée, bien souvent, il y a des stagnations d'humidité qui se transforment en glaire. C'est souvent un mécanisme lié à la rate, c'est qu'il y a l'humidité qui stagne et ça fait des glaires. Ça peut être des glaires dans le poumon, mais des glaires aussi dans d'autres organes, dans des tissus, donc des stagnations, en fait. Alors, sur le plan de chaîne de l'esprit, le chaîne de la race, on l'appelle Yi. Yi, on le traduit dans nos pratiques de Qigong par l'intention. Et d'une manière plus générale, c'est ce qui donne la forme des pensées. C'est-à-dire qu'on a des mouvements, par exemple, du cœur de rayonnement, et la rate, elle va pouvoir leur donner une forme à travers des mots, à travers des pensées. Et donc, elle a un côté assez matériel, la rate. Et on pourrait dire, un peu dans une approximation, que c'est le mental en nous. Parce que le mental, c'est aussi une forme de digestion. Hein, comment je m'organise demain, il y a ça, je dois aller là, comment je vais faire, etc. Donc c'est une vraie forme de digestion pour mettre de côté ce qui n'est pas utile, bien placer les choses. Et donc ce mental, c'est la vision du psychisme la plus matérielle, hein, la plus superficielle, on pourrait dire. Hein, là, ce n'est pas l'énergie du cœur, c'est l'énergie vraiment du quotidien, mais qui aujourd'hui occupe sûrement un peu trop de place de notre esprit. Hein, autant la rage aujourd'hui est très fatiguée de tous ses apports, ben autant justement c'est le mental qui prend le relais, et donc on digère, même des fois la nuit, c'est le mental qui tourne, il digère tout ce qui est resté, tout ce qui n'a pas été digéré avant. Ah oui, zut, j'ai oublié ça, et puis j'ai vu telle personne, je ne savais pas, j'aurais dû lui dire ça, je ne l'ai pas fait, et ceci et cela. Donc il digère tout ce qui stagne, tout ce qui n'est pas digéré. Et d'ailleurs, même quand c'est la digestion d'un repas un peu chargé, hein, comme il y a eu les repas de fête il n'y a pas longtemps, et ben, des fois, un repas trop chargé, la nuit, et ben, ça va donner, c'est ça, toute cette rumination, toutes ces pensées qui tournent, et donc qui ne sont pas productifs, hein, qui sont alors, quelque chose qui s'alourdit et qui pèse sur nous, et ben, faut à ce moment-là penser que la rate, elle est fatiguée, elle manque un peu d'énergie, et donc il va falloir réduire les apports, se mettre un tout petit peu, pas isolé, mais freiner un petit peu tout ce qui vient de l'extérieur pour qu'on l'allège, qu'on lui redonne un petit peu d'énergie et qu'elle puisse bien transformer tout ce qu'on reçoit à l'extérieur et nous nourrir. Donc, Yi, le mental, l'intention. Alors pour celles et ceux qui pratiquent le Qigong, on sait très bien hein, qu'on va faire un mouvement et par exemple on va imaginer le trajet d'un méridien d'énergie ou on va imaginer une zone énergétique, par exemple le Tantien. Donc on a un désir du psychisme vers le corps hein, à ce moment-là dans cette pratique. On va imaginer un point. Et donc, on va mettre quelque chose de subtil, hein, d'une image, on va lui donner une forme, donc la forme d'une localisation du corps, d'un méridien, d'un organe, on va lui donner une forme, donc ça c'est vraiment Yi, et on va le mettre dans le corps, donc on va relier l'esprit et le corps. Hein, on va mettre de la conscience dans notre corps. Et donc, à travers le Qigong, c'est justement un des actes, c'est de relier le corps et l'esprit et le corps. Donc l'intention, c'est ce qui réunit l'esprit et le corps, et les perceptions qu'on a dans la pratique, c'est ce qui relie le corps et l'esprit. Hein, ce sont des messages du corps qui arrivent dans la conscience, et les deux ensemble, ben, c'est ça qui petit à petit crée cette unité du corps et l'esprit qu'on cherche dans les cultures orientales, et particulièrement bien sûr dans le Qigong. Donc, le yi, le mental, l'intention, est quelque chose qui donne vraiment une forme aux pensées. Donc, c'est pour ça que je donne cette image du mental, qu'on ne retrouve pas tellement dans les textes hein, chinois, puisqu'ils sont restés assez poétiques. Hein, en général, dans tous les textes de médecine chinoise, de cette culture, c'est pas. Nous, on aime bien mettre des mots sur les choses, etc., que ce soit assez précis. Là, on ne peut pas être très précis, mais on peut par contre se représenter ce que ça peut être. Hein, par exemple, quand je vous parle, j'ai une intention profonde et elle va passer à travers des mots. Donc, ma conscience va choisir des notions Et c'est vraiment ce yi, cette énergie de la rate, qui va permettre que je sois communicable, hein, que ça ait du sens, que ça soit adapté aussi aux circonstances. Donc dans cette énergie de la rate, il y a tout le côté de s'adapter aux circonstances extérieures. Que si j'avais une autre assemblée, ben, probablement j'aurais dit peut-être d'autres phrases un peu autrement, etc. J'aurais modifié quelques éléments parce que il y a un échange, il y a une adaptation aux circonstances. L'émotion de la rate, ben bien sûr, on dit la réflexion, les soucis. Donc là, on ne peut pas vraiment différencier le psychisme de la rate de son émotion, puisque le chêne de la rate, c'est vraiment un psychisme assez matériel, qu'on a très vite en conscience. Hein. Toute cette pensée qui tourne, etc., elle est très proche de la conscience, alors que par contre, le rayonnement du cœur, c'est loin de notre conscience quotidienne. Hein. Il faut vraiment faire une longue méditation, un travail intérieur assez intense pour trouver cette énergie du rayonnement, cette présence de l'être, comment elle se manifeste. C'est pas ce dont on a conscience au quotidien. Alors que les pensées de la rate, c'est vraiment notre pain quotidien. Et la réflexion, les soucis, eh bien, si c'est assez léger, que ça suit bien son rythme, eh bien, c'est une émotion positive. Si ben, ça patauge, c'est lourd, ça tourne en rond, etc., ben, bien sûr, ce sera relié avec une énergie de la rate fatiguée, lourde, qui n'arrive pas à transformer les choses, qui n'arrive pas à gérer les choses. Alors, on dit digérer, ben, dans digérer, il y a gérer. Et le mental, il nous aide à gérer, justement, beaucoup des situations quotidiennes. Et donc, on peut essayer aussi, pour aider la rate, de bien gérer. Je veux dire, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne peux rien faire, je le mets de côté, etc. Parce que sinon, ça fait une quantité de choses qui, tous les jours, s'accumulent. Et au bout d'un moment, ben, voilà, tout est mélangé. Si on bouge une chose, ça bouge tout le reste, etc. Et ça devient très compliqué. Donc, l'aide qu'on peut lui apporter, c'est à la fois, comme je disais tout à l'heure, les apports, des bons apports, et par rapport à tout ce qui nous vient, de bien gérer les choses, de bien les placer et de ne pas les laisser s'accumuler. Alors, donc le cinquième organe, les reins, qui n'est pas le moindre d'ailleurs dans cette énergétique chinoise. Donc les reins, ils sont un peu dans l'antagonisme du cœur du début, c'est-à-dire que eux, c'est le logis du jing, de l'essence. Donc c'est eux qui portent vraiment notre vitalité, notre énergie vitale. Et on dit même, les reins, ils portent notre capacité de nous réaliser. Hein, ils ont vraiment une notion d'une capacité. Le jing, pour y revenir un petit peu, on a dit que c'est le plus subtil de ce qui fait notre matière corporelle vivante. Et on le retrouve donc dans les liquides les plus riches, hein, comme le liquide articulaire, le liquide céphalo-rachidien, même le cerveau. Hein, dans la pensée chinoise, c'est pratiquement du jing. Aussi, le cerveau, c'est une vitalité très très riche. Donc dans les articulations, la moelle épinière, on le retrouve aussi par exemple pour l'homme dans le sperme, chez la femme dans tout le système de l'ovule, de l'ovocyte, où là c'est de l'essence presque pure qui a un très très fort potentiel vital, donc qui est très riche, très fort en vitalité. Et d'ailleurs, notre naissance, on peut dire qu'elle vient de l'union des deux jing, du père et de la mère. Et dans cette notion des reins, le jing, il est porteur de l'essence des générations. Hein, c'est-à-dire que, alors des fois on dit l'énergie chromosomique, les gènes, etc. Alors c'est peut-être faire des rapprochements un peu trop précis avec la science moderne, mais en tout cas, à travers le jing, il y a une part innée. Hein, tout à l'heure, dans le cœur, c'était le mandat céleste. Eh bien, dans le jing, c'est vraiment une notion de destinée. Et bien sûr, dans notre vie, les deux sont mêlés. On ne peut pas séparer complètement ce sens de notre vie et notre destinée. Hein, les deux s'accompagnent ensemble. Hein, le cœur, il va nous donner le sens profond de notre existence, et les reins, ils vont nous donner la capacité de nous réaliser. Et donc, dans l'énergie des reins, dans le jing, il y a vraiment cet aspect qu'on porte de génération en génération et d'une capacité. C'est-à-dire aussi, quand on dit capacité, c'est que tout le monde n'a pas la même. Il y en a qui ont une grande capacité de réalisation et d'autres une petite. Et ça, je dirais que c'est comme ça. Mais pour compenser, il y en a qui ont une grande capacité et qui ne vont rien faire avec, et d'autres qui ont une petite et qui font des miracles. Hein, donc il n'y a pas de jugement, évidemment, de bien et de mal. Il faut faire avec ce qu'on a. Mais on a une très très bonne conscience. Enfin, si on s'y attache un peu, on a une très bonne conscience de notre capacité. Par exemple, un jeune, il a beaucoup de jing, il a beaucoup de vitalité, et il va faire des choses qui, à un âge plus avancé, vont dire « Waouh, c'est très imprudent, hein, c'est très dangereux, on met sa vie en jeu. Hein, » puisque les reins, c'est vraiment les gardiens de notre destinée, donc ils nous protègent aussi de ce qui pourrait nuire à notre vie. Et moi, je sais très bien que, par exemple, j'aurais sauté 2 mètres de haut sans aucun souci il y a quelques années, là, je vais quand même faire très attention pour ne pas me fouler une cheville, etc. Et donc, il y a une conscience de notre vie très forte qui est attachée avec les reins. Et même des fois, sous forme pratiquement d'intuition. Hein, comme c'est lié à la conscience, des fois, on peut avoir des intuitions que telle chose pourrait être dangereuse, même une rencontre. Hein, les reins, à travers le jing, sont liés à toutes les étapes de notre vie. Donc, on a parlé de la naissance tout à l'heure, mais toutes les grandes étapes, que ce soit physiologique, par exemple la puberté, la ménopause, et bien sûr la mort aussi à la fin de la vie, le vieillissement, tout ça c'est sous la domination, la dépendance de l'énergie des reins, mais ça peut être aussi le chômage. Hein, quelqu'un brusquement qui se retrouve au chômage, ben, sa destinée, elle est remise en cause. Et donc, il va être obligé de questionner son énergie des reins pour se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai comme potentiel. Ou pour donner un exemple personnel, par exemple, moi j'aime bien construire des lieux, hein, enfin des lieux, des maisons d'habitation pour moi, hein, pas pour les autres. Je ne suis pas promoteur, mais j'aime bien, j'ai toujours aimé hein, reconstruire un lieu, le décorer, etc. Et donc j'en ai fait quelques-uns. Ben, aujourd'hui, je n'achèterai pas un vieux château en ruine où il faut remonter toutes les pierres, etc. Parce que mes reins ils me disent, ben non, je n'ai pas la capacité que j'avais à 25 ans pour le faire. Hein, donc on peut savoir vraiment notre capacité en les interrogeant. On sait ce qu'on peut faire et on sait ce qui est un petit peu au-delà de nos forces. Et d'ailleurs, quand on s'épuise trop dans une tâche, eh ben, l'énergie de nos reins faiblit et donc on va vieillir un petit peu plus vite. On va épuiser ce côté aussi originel hein, de la vie, puisque les reins, à travers le jing, sont aussi reliés avec le tantien. Le tantien, réservoir d'énergie originelle, hein, qui porte justement cette capacité de vivre quelque chose dans notre vie, de vivre quelque chose d'essentiel pour nous. Donc, le jing, il y a aussi une notion à travers le jing et notre naissance, c'est que quand les deux gamètes fusionnent, à un moment de la fécondation, quand il y a la fécondation, donc il n'y a plus qu'une cellule. Et donc, c'est très important pour les Chinois, ce passage à l'unité, parce que c'est au moment de cette unité, qu'on n'est qu'une cellule, que le mandat céleste vient s'incarner. Donc, ce moment unique, et d'ailleurs qui dure très peu de temps hein, dans la vie réelle, le passage à une seule cellule, eh bien c'est le moment où toute notre capacité portée par ce jing et le mandat du ciel vont se réunir. Et c'est ce que les taoïstes vont chercher dans leur pratique, c'est retrouver l'unité originelle à travers la transmutation de l'eau et du feu, l'eau des reins, le feu du cœur, et que les deux vont constituer l'axe vertical, qui est l'axe vraiment de l'être vivant à travers sa verticalité, qui donne le relief des choses, qui donne le sens des choses. Parce qu'on ne peut pas détacher le mandat que détient le cœur et la capacité que portent les reins. Hein, les deux forment le même axe autour duquel va s'articuler toute notre vie. Et c'est justement cet axe qu'il nous faut restaurer, parce que la vie moderne, alors vous allez vous dire que j'aime pas la vie d'aujourd'hui, mais on est né à cette époque, donc il y a des très beaux côtés, on a accès à énormément de choses, vous voyez. Si on avait été il y a 100 ans, je n'aurais pas pu vous faire cette conférence. Ça circule et c'est une époque fantastique, puisque justement, on est en train de reformer un contexte d'existence. Donc on sent des tas de choses qui sont en train de, je dirais, d'aller vers leur fin, et donc forcément des nouvelles choses qui vont renaître. Et c'est sans doute pas pour rien que la culture chinoise, la médecine chinoise, le Qigong, tout ça sont en plein essor, puisqu'on cherche justement une vitalité, on cherche un sens, et que cette culture nous donne des outils, elle ne nous donne pas de sens, mais elle nous donne des outils pour retrouver notre sens à nous, je dirais, débarrasser, si je peux dire, ou défaire des croyances, toutes les notions qui nous ont aidés à certaines époques, mais qui aujourd'hui ne sont plus que des, vous voyez, toutes ces factions religieuses, etc. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus là qu'il faut chercher, enfin, à mon sens, hein, personnellement, qu'il faut chercher le sens des choses, mais bien en nous, à travers ce potentiel qu'on porte. Donc, le passage à la cellule unique, ça, c'est vraiment porté par le jing, cette réserve de vitalité qui est dans les reins. Donc, une autre notion sur l'énergie des reins, c'est que à la fois, il gouverne les liquides en nous, hein, c'est le mouvement de l'eau, les reins, c'est vraiment l'eau, la mise en réserve aussi, et il porte aussi l'expression de notre vitalité. Donc, ils sont une réserve de vitalité à travers la réserve du jing, et ils sont en même temps l'expression de notre vitalité à travers le mingmen. Donc, mingmen, on l'appelle la porte de vie. Et le mingmen, donc, il est au niveau des reins, sous la deuxième lombaire. Et c'est une zone par laquelle se manifeste notre vitalité. Alors là, c'est notre vitalité actuelle. Et comment ça se fait, qu'elle se manifeste par là, c'est que dans la pensée chinoise, le mingmen réchauffe les liquides du corps. Donc il réchauffe tous nos liquides, il les vaporise dans les poumons, et les poumons rabaissent les liquides pour les répartir, comme on disait, jusqu'à la peau. Et donc, les reins, l'énergie des reins, à travers le mingmen, réchauffe tous nos liquides, et donc il nous donne de la vitalité. Si j'ai une bonne énergie des reins, il fait froid dehors, je sors, je sens qu'il fait froid, mais j'ai de la vitalité. Si je n'ai pas beaucoup d'énergie des reins, je sors et je sens tout de suite le froid rentre, que je n'ai pas beaucoup de vitalité. Et donc ça, on peut chacun mesurer, parce que il y a des moments où on va se réveiller, on a plein de vitalité, d'autres on en a moins, ben, tout ça c'est lié. Alors il peut y avoir des tas d'autres facteurs, on a parlé des autres organes, donc tout peut jouer, mais en tout cas, principalement les reins, eh bien, ils sont à travers lui-même l'expression de notre vitalité actuelle. Donc il y a le côté potentiel inné à travers ce jing issu des parents, des lignées familiales, et il y a le côté au moment présent de la vitalité qui porte et qui s'exprime à travers le lui-même. Donc sinon, au niveau des correspondances dans les cinq mouvements, il gouverne les os. Bien sûr, c'est toute la structure, hein, l'assise des reins, la structure, la charpente, le côté très structuré, hein, qui permet à l'être d'avoir son adossement dans la vie et de pouvoir creuser son sillon. Donc, et au niveau organe des sens, ils sont reliés avec l'oreille, avec l'audition. Et l'audition, c'est justement, probablement, l'organe des sens le plus profond, hein, qui se rattache à notre profondeur. Et c'est sans doute aussi le premier sens qui s'éveille en nous, puisqu'on sait maintenant que l'embryon dans le ventre de sa mère, il perçoit les sons et qu'on voit qu'il réagit aux sons extérieurs. Donc il a une audition déjà développée, même en tant qu'embryon, alors que la vue, bien sûr, n'existe pas encore, etc. Alors au niveau du chêne des reins, dans la même lignée, le chêne des reins, c'est Zeus. Zeus, c'est le vouloir. Bon, ça s'écrit Z-H-I, et on traduit par le vouloir. Donc c'est la volonté de se réaliser. Hein, c'est pas le vouloir, je vais aller m'acheter une glace à la fin de la conférence, c'est pas des petits désirs comme ça, qui seraient plus liés peut-être à la rate, justement, qui a besoin de quelque chose, à d'autres organes. Le vouloir des reins, c'est vraiment vouloir réaliser sa vie, vouloir s'accomplir. Donc c'est une volonté profonde, stable, solide, et c'est elle qui va nous permettre de bien nous enraciner dans notre vie, et d'avancer pour concrétiser ce qu'on porte en nous. Hein, l'énergie, on a parlé tout à l'heure, l'énergie du foie qui nous aide à nous extérioriser, mais s'il n'y a pas cette volonté derrière, on va extérioriser des choses plus légères, plus superficielles, mais si c'est cette énergie des reins que le foie arrive à extérioriser, eh bien ça va être quelque chose de puissant qui va vraiment nous correspondre, qui va être une étape dans notre existence. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'énergie des reins, et notamment ce vouloir, c'est quelque chose qu'il faut travailler un peu, parce que, on a parlé, hein, la rate est saturée, elle produit moins bien, et petit à petit, eh bien, on perd cette volonté de réaliser quelque chose dans notre vie. Et d'ailleurs, je donne une petite phrase d'un écrivain que j'aime bien, d'un français, Pascal Quignard, il dit « La vie n'est pas une tentative d'aimer, elle est l'unique essai. Hein, » C'est-à-dire que les reins, ils nous donnent ce sens qu'on doit réaliser ce qu'on porte en nous. Et ils nous donnent une capacité de se réaliser. Et cette capacité, justement, elle est propre à chaque personne. Hein, elle est vraiment liée à chacun de nous. Et je parlais de Mère Teresa, je n'ai certainement pas la capacité de Mère Teresa. Voilà, une très grande capacité dans un être assez fragile, hein, d'apparence. Mais moi, j'ai eu la capacité de réaliser certaines choses, et j'en ai encore sûrement beaucoup d'autres à réaliser. Et chacun de vous a une capacité de réaliser ce qu'il porte en lui. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment... peut-être le message que je pourrais donner, c'est d'essayer de réaliser, même si c'est une petite chose, et ben de le faire, parce que ça va donner du sens à notre vie. Hein, et sinon, elle n'a pas beaucoup de sens. C'est juste sortir, travailler, revenir, la cuisine, et ceci et cela. Enfin, quand on dit métro, boulot, dodo, on sait très bien qu'au bout d'un moment, il manque quelque chose. Souvent, on va aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque. Donc, on va s'offrir une semaine de vacances, tout compris ici ou là. On va dépenser, on va consommer, on va chercher des choses. Et en fait, tout est à l'intérieur. Et justement, ce mouvement, c'est plutôt de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir réaliser ce qu'on portait. Et offrir au monde, offrir à la vie. Donc le vouloir, l'assise profonde, la stabilité, la réserve, hein, la puissance de l'être, et qui s'adosse bien sûr sur cette notion du yin. Hein, s'il y a beaucoup de yin, il y a plus de capacité. S'il n'y a pas beaucoup de yin, la capacité est plus faible. Et c'est pour ça que petit à petit, au fur et à mesure des années, le yin diminue. Donc on voit nos tissus corporels ont moins de vitalité. Si on prend l'image de l'enfant, du jeune enfant, eh ben, il déborde de vitalité. On touche la peau, c'est plein de vie, ça déborde même un peu de tous les côtés. C'est une vitalité énorme. Et puis petit à petit, le jing diminue, mais grâce à des bons apports, à une bonne digestion, un équilibre de vie, eh bien, on peut tout à fait l'entretenir. Et en tout cas, plus il diminue, eh bien, plus cette capacité de vitalité, elle va elle aussi diminuer. Et donc, on va hésiter. Et des fois, quand on arrive vraiment à l'extrême de l'âge, quand on n'a plus beaucoup de jing, de capacité de vitalité, eh bien, on va avoir du mal même à sortir dehors, à faire des choses très simples, parce que, voilà, on n'a plus la capacité. On a la capacité physique de le faire, mais on n'a plus cette volonté de réaliser, on n'a plus ce sens-là. Et je sais que moi qui me suis occupé de personnes âgées, ils font des vous pouvez le faire, allez-y, il faut le faire, il faut. Ben non, j'ai plus la volonté. Et même dans des maladies aussi, on voit des gens qui baissent les bras, ils abandonnent, ils n'ont plus la capacité. Et donc c'est pour ça aussi qu'on dit que ça touche le destin. Parce que quelqu'un qui va avoir la volonté, il va pouvoir s'extraire de la situation, il va pouvoir réaliser quelque chose quand même. Donc c'était Dzu, la capacité réalisatrice. Et l'émotion liée au rein, donc on dit que c'est la peur. Alors j'ai déjà esquissé un petit peu cette notion-là, puisque quand on a plein d'énergie dans les reins, plein de jing, on a peur de rien, en fait, quitte même à prendre des risques, hein, et donc ça c'est toute la jeunesse, hein, bien souvent. Et puis à l'inverse, quand la capacité est diminuée, quand on n'a plus beaucoup de cette énergie, ben, on va avoir peur de tout. Peur de tout ce qui peut arriver, peur de l'autre, peur. Et donc ce sont des caractéristiques constantes. Hein. Des fois on se dit que chez nous, que c'est français ou autre, mais non, c'est partout pareil. Hein. Quand la capacité diminue, on a peur, on a plus peur de tout. Et cette peur, ben, comme les autres émotions, elle a un aspect très positif, c'est la prudence. L'aspect positif de la peur, c'est la prudence. C'est que la prudence, pareil, hein, on parlait tout à l'heure d'un chemin sur la montagne escarpée, où on est prudent parce que si on tombe, on met sa vie en jeu. Ou moi en scooter, pareil, des fois je me dis, oh là, attention, je sens quelque chose. Donc je vais faire attention, puis pof, il y a une voiture qui va déboucher. J'étais averti. Parce que au niveau des reins, il y a une très grande conscience de la vie. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, parce que les reins ils portent cette mémoire de l'unicité de ce qui nous a constitué. Et donc, c'est une notion qui est très, très proche de notre conscience et qui peut se décupler dans des moments critiques. Je me rappelle une fois, j'ai eu justement un accident de scooter, j'avais pas dû être très prudent. Mais en fait, c'était quand il venait de faire les petits murets de séparation avec les voies de bus, donc ça fait une vingtaine d'années, devant le Louvre, et j'étais entre la voie de taxi et les voitures, et puis je vois ce truc-là devant moi, avec mon petit scooter, j'ai rien pu faire, donc je me suis prié le machin, j'ai fait le vol plané, et en descendant, j'ai eu vraiment cette... on pourrait dire une voix intérieure, c'est une conscience peut-être, qui me dit « tourne ta tête », donc j'ai tourné la tête, et puis pof, je me suis écrasé par terre, et heureusement, comme j'avais tourné la tête, j'ai eu des fractures et tout, mais j'ai conservé, ma vie, et je m'en suis sorti. Et chacun, je pense, a des exemples où cette conscience, elle peut nous protéger, hein. Donc c'est une vraie prudence de la vie. Et ça, c'est l'aspect très positif donc de l'émotion des reins. D'essayer d'écouter, hein, puisque l'oreille, c'est justement lié aux reins, d'essayer d'écouter ces messages qui nous viennent des profondeurs puisqu'ils sont là pour nous protéger et pour nous permettre justement après de réaliser. Et puis la peur, ben, il y a l'autre côté négatif qui est plus quand cette énergie diminue, on l'a dit, eh ben, on a peur de tout, on a peur de tout ce qui peut arriver et à ce moment-là on se fige dans la peur. Bien sûr que le chêne ne peut plus se manifester, etc. etc. Hein, et donc, comme on a dit que les rats étaient liés à toutes les étapes de notre vie, quand cette énergie diminue d'une manière trop importante, eh ben, on s'approche de notre mort. Hein, c'est les rats qui déterminent en fait ces étapes jusqu'au moment de la mort, où c'est la fin de l'énergie des rats, la fin du Qing. Et donc, à ce moment-là, Hunpo se sépare, hein, le Po, cet instinct terrestre retourne dans la terre, le Run, il retourne dans le potentiel, et tout ce qu'on a chargé de mémoire sur cet axe rein-cœur devient une entité mémorielle. Hein, qui, alors, si elle est très chargée, eh ben, elle est accessible, parce que c'est très stable, hein, les mémoires, elle est accessible aux autres. Si c'est une existence moins particulière, moins chargée, eh ben, elle va retrouver les autres mémoires. Hein, quand je parle de mémoire, par exemple, il y a des mémoires d'artistes. Hein, si on va même la chapelle Sixtine ou des tableaux anciens, enfin des choses fortes, hein, eh bien, ils ont traversé les siècles, où je parlais de Van Gogh tout à l'heure, ils sont toujours autant chargés. Hein, on reste devant, bon, il faut rester un moment, hein, on reste un quart d'heure, 20 minutes devant un tableau de Van Gogh, il se passe quelque chose. Hein, on est vraiment interpellé par quelque chose de très fort, hein, mémoriellement. Ça peut être des mémoires de personnes, existantes ou non. Hein, quand on parle par exemple de Lao Tzu, hein, Lao Tzu, tout le monde connaît, et pourtant il n'a jamais existé physiquement. Historiquement, on n'a aucune trace de son existence, rien. Et quand on voit l'ouvrage, le Tao Te Ching de Lao Tzu, on sait maintenant qu'il est écrit par plusieurs personnes. Hein. Il y a des notions de grammaire, de mots, etc., qui correspondent à plusieurs époques. Donc c'est une compilation en fait, des textes plus anciens. Mais mémoriellement, c'est quelque chose qui est très très fort. Hein, le Lao Tzu, qui est chargé de mémoire, beaucoup plus ancienne que lui, c'est à peu près 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, mais il porte des mémoires peut-être de 1000, 2000 ans avant. Et donc c'est quelque chose de très très stable, puisqu'il nous arrive aujourd'hui chez nous, qu'il est encore très répandu, et que donc pendant des siècles encore, il pourra être présent, hein, à travers notions mémorielles. En Occident, on a, enfin c'est que quelques exemples, on a par exemple Saint François d'Assise. Hein, voilà un être que tout le monde connaît, hein, on dit non, et tout de suite ça évoque une présence, un être, une bonté. Et dans sa vie, il n'a pas eu une histoire exceptionnelle. On sait qu'il a été voir une fois le pape, avec quelques compagnons ils ont fondé un petit monastère. On sait qu'il parlait avec des oiseaux. Mais sinon, il n'y a pas de fait historique très fort, et pourtant, il est partout. Hein, et si on ferme les yeux, on a cette sensation, cette image de bonté. Et donc, on peut penser que, mémoriellement, c'est quelqu'un qui a énormément chargé. Hein, qui a vraiment... voilà, il a eu une vie sans éclat extérieur, mais éclatante sur le plan de sa présence. Hein, et vous voyez que cette présence, elle est à travers notre vie, mais elle est même un peu au-delà. Bon, là, c'est quand même des gens exceptionnels. Et en tout cas, vous voyez que cette notion d'esprit, de conscience, de chaîne, eh bien, dans la pensée chinoise, on ne l'a pas séparée de notre fonctionnement corporel. Et qu'on l'a bien dit pour le cœur, par exemple, que ce rayonnement des circulations en nous, eh bien, il correspond aussi au rayonnement de la personne, à sa présence, et qu'on ne peut pas séparer vraiment les deux. Si l'un ne marche pas bien, ben, l'autre n'ira pas bien non plus. Et que, ben, on l'a fait aussi pour les autres organes, hein, que le mouvement avec le foie, l'extérieur, le printemps, quelque chose qui veut grandir, qui veut aller dans le monde, eh bien tout ça, c'est quelque chose qui touche autant notre corps physique que notre esprit, que notre conscience. Et je pense que c'est une vision très intéressante, mais je dis bien que c'est une vision, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'approcher la vie, mais la vie, elle est toujours au-delà. Hein, puisque dans la vie, il y a ce qui est manifesté, qui vient, dans le taoïsme, de ce qui n'est pas manifesté. Donc il y a toujours ce potentiel qui produit, mais ça n'est qu'un aspect. Hein, donc la pensée chinoise, elle nous permet de rentrer en relation avec le vivant, puisque justement c'est une pensée de la relation, des échanges, du mouvement, de la transformation, mais ça n'est pas elle-même la vie. Hein, donc il ne faut pas la statifier, je pourrais dire, dans quelque chose d'absolu, de figé. C'est plus une manière de rentrer dans cette relation et de trouver sa juste place. Et à travers, vous avez vu, ces cinq polarités, de la vie, d'essayer que chacune ait sa place en nous, que ce soit sur le plan corporel, la bonne santé de tous ces organes qui fonctionnent bien, que sur le plan de l'esprit, où autant il y a le rayonnement, autant il y a le côté spirituel, autant il y a l'aspect instinctif pour entretenir son existence, autant il y a la bonne gestion et la bonne digestion du quotidien à travers la rate, et autant il y a cette volonté de réaliser sa vie, de creuser son sillon dans l'existence et de donner du sens à sa vie. Et bien sûr que chacun a des mouvements qui sont privilégiés par rapport à d'autres, et justement, raison de plus pour faire exister aussi un petit peu les autres. Et c'est jamais un équilibre parfait entre les cinq, c'est plutôt une dynamique que, à certains moments, ça va être le moment de réaliser une grande chose, à d'autres de bien gérer le quotidien, etc., etc. Hein, mais de ne pas en négliger complètement un ou un. Voilà, ben je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il y a une question, je peux répondre. Non, vous êtes peut-être déjà bien nourri.
Bien,
on ne va pas saturer la rate. Et bien voilà, ben, merci beaucoup.
Merci.
Et c'est pour stimuler tous ces organes, oui, c'est par les bronches qui comptent.
Alors c'est plutôt pour
quand
les entretenir.
Voilà, hein,
c'est pour que ça circule, voilà. Pour que ça. Que tout se répartisse bien, hein, le Qigong, et puis que ça se relie. Hein, on a parlé du corps et l'esprit, que tout soit bien relié, que ça circule. Après, j'ai donné, par exemple, pour la rate, hein, c'est le principal, le conseil de la nourriture. C'est pas pour rien qu'on va dans des trucs un peu bio. Parce que c'est pareil, le gym, on doit nourrir notre propre gym. Mais si on cueille un fruit sauvage dans la montagne, etc., il est plein de gym. Il est plein de vitalité. S'il a passé 3 mois dans un frigo, il a eu 5 ans de traitement, etc., il n'y a que la matière, mais il n'y a plus de vie. Donc d'essayer de se nourrir avec des choses qui ont de la substance, physiquement et psychiquement. Les œuvres d'art, l'amitié, enfin tout le côté humain de la vie. Donc la médecine chinoise, elle est très préventive, hein, dans le sens-là, d'essayer d'aller vers l'équilibre. Et puis quand c'est un peu trop déséquilibré, on fait appel au médecin chinois, parce que quand il y a une insuffisance, quand la rate n'a plus d'énergie, enfin plus assez pour bien transformer, là on va se tourner vers les plantes. Parce que les plantes chinoises, elles vont avoir cet aspect de nourrir l'énergie d'un organe. S'il y a un blocage, par exemple, l'acupuncture sera adaptée, puisque l'acupuncture, elle va faire circuler d'une manière assez forte, assez intense. Le massage, lui, il va relier le corps et l'esprit, puisqu'il donne beaucoup de perception, et il va harmoniser l'ensemble, il va faire circuler. Mais il agira moins puissamment que l'acupuncture, et surtout s'il y a une notion de vide, d'insuffisance, il aura du mal à le combler. Donc chaque facette de la médecine chinoise, elle a ses indications et aussi ses limites.
Ah, une question.
Comment peut-on faire la différence entre ce qui peut être une perte d'énergie vitale liée à l'affaiblissement de la capacité propre au rein, avec une sorte de dépression latente qui serait plus du côté du poumon, si j'ai bien compris? Est-ce qu'on peut repérer ça par les poux? Est-ce qu'on peut intervenir par l'acupuncture? Ou est-ce qu'il n'y a
Alors,
pas moyen de
si, il y a moyen, mais c'est plus compliqué que ça. Hein, parce que, par exemple, le côté dépressif, on ne peut pas l'attribuer à un organe, comme ça. Hein, c'est parce que ça peut être le cœur qui se ferme, ça rayonne c'est plus ça. Et il y a côté dépressif. Le poumon, ça va vers le bas, etc. Donc là, c'est vraiment de la médecine pure, où il y aura les poumons, il y aura un ensemble d'éléments et de l'histoire de la personne, hein, aussi de son histoire, qui permettront de trouver ce qui déséquilibre, ce qui ne va pas, et d'essayer de... parce que quand c'est profond, que ça touche le psychisme, les organes et tout, c'est pas quelque chose de très simple. Hein. Mais, en tout cas, c'est par là qu'on pourrait essayer. Mais on peut pas... là, j'ai donné un tableau très accessible, mais après, quand on rentre dans le côté pathologique, c'est... Bah oui, surtout que tout réagit avec tout. Donc... Mais heureusement, il y a la trame, hein, il y a quelque chose qui nous aide quand même toujours. Si on oriente du bon côté, le corps a des ressources incroyables.
Merci.
Bonne soirée.